Ce soir, oui, on commence à célébrer un seul et unique héros, et vous allez l'entendre d'ailleurs tout au long de la semaine, qui a eu plusieurs vies musicales et qui est toujours présent parmi nous. It's getting near dawn. Lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise.
Trip sur France Inter.
Un des riffs les plus célèbres de l'histoire du rock sur lequel bien des apprentis bassistes et guitaristes se sont fait les doigts, Sunshine of Your Love, un titre signé par le trio britannique Cream, c'était en 1967, un titre qui fut un grand succès international, à commencer d'ailleurs par les États-Unis. Alors pourquoi vous faire écouter Cream, un groupe jadis cofondé par le guitariste Eric Clapton. Pourquoi vous faire écouter ça ce soir? Ça n'a rien d'une fantaisie personnelle. Il se trouve que sort mercredi, donc après-demain au cinéma, un documentaire que j'ai eu la grande chance de voir consacré à la vie du guitariste Eric Clapton et qui s'appelle Life in 12 Bars, hein, la vie en 12 mesures. Les 12 mesures du blues, évidemment. Alors je m'empresse de le souligner, ce documentaire que l'on doit à un des producteurs, un des coproducteurs du film Searching for Sugar Man, hein, vous savez, ce film qui a révélé au monde entier l'invraisemblable destin d'un chanteur américain dont presque personne n'avait jamais entendu parler, Rodriguez. Et bien ce documentaire consacré à Clapton par le même producteur a de quoi passionner tous les publics. Il a été réalisé par une femme qui est plutôt connue comme productrice de cinéma, Lily Finney Zanuck. Elle n'avait jusqu'ici réalisé qu'un seul film, c'était il y a très longtemps, c'était au début des années 90, certains se le rappellent peut-être, Rush, hein, une histoire d'agent infiltré dans le milieu de la drogue et dont Eric Clapton avait signé la BO. Ce qui avait, j'imagine, permis à Lily Finney Zanuck de tisser des liens très étroits de confiance avec Clapton. Et de fait, le musicien lui a accordé un accès sans condition à toutes ses archives privées. Il a aussi donné l'autorisation d'utiliser et monter toutes les archives publiques qu'elle a pu trouver, dont certaines, c'est le moins qu'on puisse dire, ne montrent pas le musicien sous un jour extrêmement flatteur. Drogué jusqu'aux yeux, alcoolique jusqu'à l'abrutissement, injurieux parfois, voire odieux, il y a parfois des moments de sa vie qui mettent terriblement mal à l'aise. D'ailleurs, Clapton lui-même, dans sa quête de vérité intérieure, s'était absolument rien épargné dans l'autobiographie qu'il avait écrite et publiée. C'était en 2007, The Autobiography en anglais, et le titre français c'était simplement Clapton par Eric Clapton. Alors dans ce remarquable documentaire d'une très grande humanité, Life in 12 Bars donc, eh bien les aspects sordides de la vie de Clapton sont montrés, oui, mais jamais soulignés avec une complaisance désagréable, vous savez, un peu comme si l'on était invité à regarder par le petit trou de la serrure. Au contraire, le film s'attache à mettre en relief la souffrance de Clapton, oui c'est vrai, mais pour nous faire sentir que justement c'est celle-ci qui a fait de lui le grand musicien qu'il est devenu. Une souffrance intime qui est à la source de sa passion pour le blues. C'est cette souffrance qui l'a fait s'identifier à cette musique. Parce que le blues, pour Clapton, a été bien, bien plus qu'une musique. Un idéal de délivrance pour lui, comme d'ailleurs pour toutes celles et tous ceux qui, à son image, ont une vie qui parfois leur fait mal, même très mal. Et à la source de cette quête, vous le découvrirez si vous allez voir ce film qui est captivant et émouvant de bout en bout, eh bien il y a une histoire familiale très douloureuse, une enfance déchirée, une vie sentimentale pathétique, sans parler d'une affreuse épreuve que Eric Clapton a traversée la quarantaine passée, la perte d'un enfant en bas âge. Je vous en dirai deux mots cette semaine. Alors Clapton a joué, en tout cas, un rôle absolument unique dans l'histoire du rock. C'est lui qui a inventé, avant même son ami Jimi Hendrix, eh bien la figure du guitar hero flamboyant. Un guitar hero d'un genre particulier, côtoyant des gouffres, marchant un peu trop près des fleuves de lave crachés par les volcans incandescents et mortifères. En tout cas, ce qu'on comprend en sortant de la projection de ce film, Life in 12 Bars, c'est qu'au fond, Clapton, comme un Mick Jagger ou un Jim Morrison, des personnalités très différentes, hein, se situe à la charnière de la poésie romantique et du rock. Et c'est un des tout derniers témoins de cette époque reculée qui jette aujourd'hui ses derniers feux. Alors pour Clapton, tout a commencé il y a très 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 longtemps, alors qu'il avait 20 ans à peine. We'll be right back.
glad, I'm glad, I'm glad.
I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad, I'm glad. I'm so glad, I'm so glad, I'm glad, I'm glad.
I'm so glad, un des premiers titres phares du trio anglais Cream, cofondé à Londres par Eric Clapton, un titre extrait du premier album de Cream, sorti à la toute fin de l'année 1966, Fresh Cream. Alors, I'm so glad, c'est une reprise. À l'origine, c'était un blues créé par Skip James, un musicien à l'étrange destin, originaire du sud du Delta. Il avait réalisé des enregistrements très très tôt, dans les années 30, après quoi on avait complètement perdu sa trace, et puis, il était brusquement réapparu 30 ans plus tard, au milieu des années 60, se produisait dans des festivals suscitant une passion particulière chez les jeunes amateurs de blues du monde entier. Alors je reviens au groupe Cream. Comme Eric Clapton a bien sûr suivi en plus d'un demi-siècle un parcours aussi riche que varié, beaucoup d'histoires du rock traitent Cream comme un des premiers chapitres de la carrière de Clapton. Ce qui est une déformation a posteriori, et surtout ce qui est extrêmement injuste pour les deux autres musiciens, chacun exceptionnel, qui ont créé ce groupe avec lui donc au milieu de l'année 66 à Londres. Citons le premier, auquel d'ailleurs revient l'initiative du groupe, le batteur et percussionniste Ginger Baker, un musicien exceptionnel qui, à 25 ans passés, était déjà une importante figure du jazz londonien qui était alors en pleine effervescence. Et d'ailleurs, c'est ce mélange de jazz et de blues, à l'origine d'ailleurs duquel sont nés les Rolling Stones, qui oriente le projet de Cream. Ginger Baker a en effet repéré le talent exceptionnel de Eric Clapton, un très jeune guitariste de blues qui brille de mille feux au sein des Blues Breakers de John Mayall. C'est une sorte d'école de blues, ce groupe de pépinières pour jeunes musiciens puristes opposés à toute démarche commerciale. On a pu se faire une idée d'ailleurs de ce don le jeune Eric Clapton était capable en écoutant juste avant I'm So Glad de Cream, Stepping Out, un instrumental qui figure le deuxième album des Blues Breakers de John Mayall. À l'origine, c'était une composition de Memphis Slim et ça remonte à l'année 1966. Alors, c'est difficile aujourd'hui d'imaginer le charisme et la fascination qu'exerçait alors Clapton sur un jeune public londonien de passionnés de blues qui se pressaient dans des petits clubs pour le voir lui et presque exclusivement lui. Parce que du temps des Yardbirds, le groupe où Clapton, encore teenager, avait fait ses débuts professionnels, il y avait déjà un petit groupe d'admirateurs qui venaient toujours se planter au bord de la scène des pubs où il se produisait, non pas pour admirer le chanteur, comme c'était le cas en général pour la plupart des groupes, mais pour admirer lui, le guitariste. Et d'ailleurs, il y avait même un admirateur qui avait peint à la bombe sur un quartier de Islington, c'est dans le nord de Londres, un graffiti resté légendaire, c'était, je crois, sur Arvon Road, Clapton is God. Voilà, Clapton, c'est Dieu. Bref, Ginger Baker débouche Clapton des Blues Breakers avec l'ambition de pousser plus loin encore une fusion de blues et de jazz. Et c'est là que Clapton lui fait une assez mauvaise surprise. Et oui, il suggère de compléter le groupe par un bassiste et chanteur pour lequel il a, lui, Clapton, une immense admiration, Jack Bruce. En deux mots, c'est qui Jack Bruce ? Eh bien, c'est un Écossais d'origine. Il a une double formation à la musique classique comme au jazz. Contrebassiste de jazz, il a étudié le violoncelle et la composition au conservatoire. Il chante d'ailleurs remarquablement. Alors, pourquoi mauvaise surprise ? Eh bien, parce que Ginger Baker ne le supporte pas. Il a joué avec Jack Bruce pendant 2 ans au sein d'un groupe de jazz. Ces deux hommes à l'ego extrêmement fort se sont disputés à peu près sur tous les sujets, enfin ils peuvent pas se blairer quoi. Mais Clapton a dit à Baker, Jack Bruce, c'est le meilleur, donc ce sera lui ou personne. Et évidemment, Ginger Baker doit ravaler toute sa rancœur. C'est ainsi que naît Cream, une association aussi conflictuelle qu'explosive, au confluent du blues, du jazz, oui, mais aussi de la musique classique, même un peu de l'opéra parfois, du folk et du mouvement psychédélique naissant. Un groupe extraordinaire dont la durée de vie fut très brève, 2 ans, et dont l'influence fut aussi importante sur Jimi Hendrix que sur Led Zeppelin. D'ailleurs, voici pour preuve une mélodie folk psychédélique qui repose sur ce qu'on appelle un accordage ouvert à la guitare. C'était signé Cream en 1968, ça s'appelle As You Said, et vous pourrez y entendre en germe ce soir sur France Inter tout un pan futur de Led Zeppelin.
Starlings, silver horses round the station. Platform ticket, restless diesels, goodbye windows. I walked into such a sad time at the station.
White Room, un des sommets de la brève carrière du groupe Cream en 1968. Cream, un trio formé, je vous le rappelle, 2 ans auparavant par Eric Clapton, et dont on va essayer tout au long de la semaine de parcourir la longue carrière qui a été faite de continuelles ruptures et métamorphoses, en fait de nombreuses renaissances. Alors White Room, c'est un classique où résonne la voix basse et théâtrale de Jack Bruce, qui était le compositeur et chanteur principal de Cream. D'ailleurs, ses compositions éclipsaient celles de Clapton, qui était moins à l'aise que lui dans ce domaine. Quant aux paroles, elles étaient dues à Pete Brown, un poète ami de Jack Bruce, musicien également, qui évoquait, je traduis, une chambre blanche aux rideaux noirs où le soleil n'entre jamais et où les ombres se fuient. L'évocation d'un état psychique particulier qu'on peut désigner sous le nom de cafard ou, quand ça paraît écrasant et sans remède apparent, eh bien dépression. Un état, soit dit en passant, que Clapton n'a que trop connu dans sa vie. Alors vous l'avez entendu, White Room est rehaussé par un solo de guitare à la pédale wah-wah que Clapton à laquelle Clapton a recouru, résultat direct de l'influence de Hendrix. Autre chose à souligner, cet album, les séances d'enregistrement de l'album Wheels of Fire ont été supervisées à New York par Felix Pappalardis, un musicien new-yorkais, orchestrateur de formation classique, qui est également joueur d'alto. On entend d'ailleurs son alto dans l'album, et c'est vraiment quelqu'un qui a donné une touche d'un grand raffinement à la musique de Cream. Cream. Alors, il faut souligner également un aspect important, son influence en profondeur sur le développement du blues psychédélique aux États-Unis sur les deux côtes Est et Ouest. Et oui, il faut souligner également que le deuxième album du trio d'Israeli Gears a été enregistré déjà au studio Atlantic à New York par Tom Dowd. Tom Dowd, un ingénieur du son qui avait travaillé avec les plus grands musiciens de jazz, blues et soul, Charlie Mingus, John Coltrane, Thelonious Monk et puis aussi Ray Charles et Otis Redding. Et tout comme d'ailleurs le double album Wheels of Fire, c'est Tom Dowd enfin le vrai monument du groupe, c'est Tom Dowd qui a supervisé tout ça. Et il a aussi discipliné Cream, qui partait un peu dans tous les sens, apportant une musicalité et une fluidité qui ont ouvert à Clapton d'autres mondes musicaux. On y reviendra bien sûr tout au long de la semaine sur France Inter. Et puis surtout, Cream, au contact du mouvement psychédélique né sur la côte ouest des États-Unis, a ouvert une brèche nouvelle. Le trio s'est en effet produit avec une puissance sonore qu'aucun groupe n'avait jamais atteinte. Une puissance sans précédent. Au Fillmore de San Francisco, le public a pu assister à des concerts où Cream jouait amplifié par un mur d'ampli Marshall. Au début de la tournée, il y en avait un, après il y avait une deuxième rangée, puis une troisième rangée. Ginger Baker jouait sur une double batterie, deux grosses caisses, derrière laquelle il ressemblait à un pilote de char d'assaut. Les morceaux s'étiraient indéfiniment. Chacun des trois partait dans des solos très étirés, de plus en plus forts, où chacun donc essayait de tirer la couverture à lui et d'étouffer l'autre. Alors évidemment, conséquence de ça, ils ont fini par se détester. Faut dire qu'entre Jack Bruce et Ginger Baker, c'était déjà bien parti. Ils en venaient régulièrement aux mains. Mais enfin, il reste des témoignages exceptionnel comme ce Crossroads, un blues d'anthologie jadis créé par le légendaire Robert Johnson, joué sur la scène du Winterland de San Francisco par Cream en mars 1968.
Now to the cross. a crossroad, believe I'm sinking down.
Thank Eric you. Clapton, please, the vocal.
Vertigo Trip sur France Inter.
Encore un classique extrait de l'album Wheels of Fire de Cream. Franchement, un chef-d'œuvre cet album. Politician, un blues composé par Jack Bruce et Pete Brown, rehaussé par un éblouissant solo de Eric Clapton où trois parties de guitare se chevauchent jouées sur ces deux guitares Gibson de l'époque. Alors comme je vous disais, Cream n'a pas survécu à la surenchère de bruit et d'ego de la tournée américaine de 68 et Clapton, écœuré, assoiffé d'une musique musique plus pure, s'apprêtait alors à prendre un tournant vers une musique justement plus simple, plus apaisée. Un virage qui allait d'ailleurs, soit dit en passant, déconcerter nombre de ses admirateurs qui le sacralisaient comme Guitar Hero. C'est un peu d'ailleurs comme les Beatles au moment où ils ont réalisé ce qu'allait devenir le fameux double album blanc, que les trois membres de Cream se sont rendus séparément en studio pour enregistrer ce qui allait être un album posthume intitulé de manière tout à fait justifiée Goodbye. Et durant cette période, Clapton, qui avait jugé les Beatles avec beaucoup de condescendance quand les Yardbirds, dans lesquels il jouait, les avait croisés dans un studio de la BBC à Londres, c'était en 63, il avait vu en eux une sorte de boy band commercial. Et bien entre-temps, Eric Clapton s'était beaucoup rapproché de George Harrison. C'est d'ailleurs Clapton qui joue, beaucoup le savent, le très beau solo de Why My Guitar Gently Weeps, la chanson de George Harrison dans le double blanc des Beatles. Et puis la même année, George Harrison a composé avec son ami Eric Clapton une chanson qui figure donc dans cet album Goodbye de Cream. Il participe aussi à l'enregistrement à la guitare rythmique. Une chanson qui s'appelle Badge, ce qui n'a strictement aucun rapport avec ce dont parle la chanson. C'était juste une erreur d'inscription sur un registre du studio d'enregistrement. Et voilà, c'est resté Badge. Une chanson qui préfigure le style à venir de Eric Clapton, plus sobre et plus retenu.
Yes, I told you that the light goes up and down.
Voilà, on va un peu couper Presence of the Lord pour avoir le temps d'écouter autre chose. Un gospel qui est un des sommets de cette première période d'Eric Clapton, qui s'achève à peu près avec la fin des années 60. Vous l'avez constaté, c'est pas lui qui chantait, mais son camarade Steve Winwood. En deux mots, poussé par le manager australien, on disait encore impresario en ce temps-là, disons impresario de Cream, qui était d'ailleurs aussi celui des Bee Gees, et bien Clapton a été convaincu de s'embarquer dans une association dont on attendait monts et merveilles avec son compagnon de Cream, Ginger Baker. Il s'est associé donc à Steve Winwood, qui est le jeune prodige du groupe Traffic, la basse étant tenue par Rick Gretsch, qui venait d'un groupe remarquable, hélas oublié, Family. Donc ces quatre-là ont été convaincus de se lancer sous le nom de Blind Faith, hein, foi aveugle. C'était un nom bien trouvé pour ce groupe que la presse spécialisée présentait alors comme un, entre guillemets, super groupe. Alors Blind Faith a composé, enregistré un court album avant de partir pour une tournée américaine à guichet fermé, où pour autant, eh bien, la magie n'était pas franchement au rendez-vous, ce qui a conduit Blind Faith à cesser d'exister aussitôt la tournée finie. Reste deux classiques, Presence of the Lord, qu'on a entendu, et puis cette chanson, Can't Find My Way Home, où le chant se partage entre Winwood et Clapton. Décourter un peu ce chef-d'œuvre de Blind Faith, Can't Find My Way Home, c'était en 69. Mais on retrouvera Eric Clapton dans d'autres aventures demain soir. Merci à Sonia Leglen qui exceptionnellement a réalisé l'émission, Michel Bézikian à la technique, Romain Couturier, discothèque de Radio France, Zora Ben-Smaili pour le site internet. Et tout de suite après les informations, eh bien vous retrouverez Laurent Goumard, son nouveau rendez-vous, qui recevra ce soir la comédienne Marthe Keller et l'écrivain Antoine Volodine. À demain.